Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source pour le moins inattendue, le bulletin numéro 73 du Carto Club à Véronée. C'est une publication d'une association de collectionneurs de cartes postales qui date de septembre 2019. Et au milieu de tout ça, on trouve une analyse historique d'une densité assez remarquable. Notre mission, ça va être de retracer l'histoire de l'enseignement agricole en Aveyron, du milieu du 19e siècle à la fin du 20e. On va suivre le parcours d'un savoir qui passe de la transmission orale de père en fils à un système éducatif beaucoup plus formel, institutionnalisé.
C'est une trouvaille formidable, oui. Ça montre bien qu'il ne faut jamais sous-estimer ces publications de niche. Il faut d'ailleurs rendre hommage à l'auteur, Gilbert Régour, et aussi saluer le travail de Guy Mazard, qui est crédité comme rédacteur en chef et concepteur de la mise en page. En fait, ce qu'il nous offre, c'est une étude de cas sur la modernisation de tout un monde rural vu par le prisme de l'éducation. C'est l'histoire de comment une société prend conscience qu'elle doit structurer ses savoirs pour survivre et s'adapter, quoi.
C'est exactement ça. Alors, posons un peu le décor. Au début du 19e siècle, en Aveyron, le savoir agricole, c'est une affaire de transmission directe. C'est presque un héritage. On apprend en faisant, en regardant son père, son oncle. La première vraie rupture, d'après la source, elle vient avec l'écrit. En 1839, un agronome, Amance Roda, publie Le cultivateur avéronais. Et ça, c'est une petite révolution. On passe d'un savoir qui se vit à un savoir qui...
Qui se lit. Exactement. Mais bon, il faut être clair, à l'époque, ça s'adresse à une élite, hein. Des grands propriétaires terriens, lettrés, qui ont le temps de lire. Mais l'idée est lancée, et elle va faire son chemin très très vite. Dès 1840, un an seulement après le livre, la Société d'agriculture de l'Aveyron lance un cours public d'agriculture à Rodez. Et 7 ans plus tard, en 1847, on passe à l'étape supérieure, un projet beaucoup plus ambitieux, la ferme-école de Calcomiers. Là, l'idée, c'est d'allier la théorie et la pratique.
Sur le papier, ça a l'air parfait. Une application concrète, directe. Pourtant, l'article insiste bien. L'expérience, elle tourne court. La ferme-école fait face à ce que le texte appelle des détracteurs et elle ferme en 1855, moins de 10 ans après son ouverture. Mais pourquoi ? On pourrait penser qu'une telle initiative serait applaudie.
C'est là qu'on touche aux tensions profondes de l'époque, en fait. La source suggère plusieurs pistes. D'abord, des rivalités professionnelles, sans doute. Ensuite, le contexte politique est très instable. On a la fin de la monarchie de Juillet, la Seconde République. Ces changements fragilisent les soutiens. Mais la raison la plus profonde, c'est sûrement une méfiance culturelle. Le monde paysan se méfie de ces experts venus de la ville. L'échec de Calcomiers, c'est la première manifestation de ce conflit entre le savoir du livre et le savoir de la terre.
Cette tension, elle est fascinante. On sent bien que l'idée est là, mais que la société, elle n'est pas encore tout à fait prête. Pourtant, l'idée ne meurt pas. À la fin du 19e, le projet refait surface. Mais cette fois en suivant deux chemins très différents. L'un est privé et religieux.
Oui, c'est l'orphelinat agricole de Grèze, fondé en 1880. Le projet, il est à la fois social et moral. On prend en charge des orphelins pour les former au métier de la terre. Derrière ça, il y a une vision très 19e siècle. La ville, c'est le vice, la perdition. La campagne et le travail agricole, au contraire, c'est un cadre sain, rédempteur, qui remet les jeunes dans le droit chemin.
D'accord. L'agriculture comme outil de salut moral. Et l'autre voie, alors ?
L'autre voie, c'est celle de l'État, la voie publique. On est en pleine Troisième République, et avec les lois de Jules Ferry en 1882, l'agriculture devient une matière obligatoire à l'école primaire. Et pour orchestrer tout ça, on crée un poste clé, le professeur départemental d'agriculture. C'est lui qui va former les instituteurs. Et l'article met en lumière une figure assez extraordinaire, Eugène Marre, qui a occupé ce poste de 1891 à 1918.
Ah oui, l'article le décrit vraiment comme un personnage central. Il ne se contente pas d'enseigner, il fait de la recherche, il publie des études qui feront date sur la race d'Aubrac ou le fromage de la Guiole. Et le détail qui le rend encore plus vivant, il était aussi photographe. Il illustrait lui-même ses travaux.
C'est une sorte de savant vulgarisateur, un homme orchestre, quoi. Il incarne cette volonté de l'État de moderniser le pays par la science, par la technique, en s'appuyant sur l'école. Donc, on a bien ces deux modèles qui coexistent. L'initiative privée, charitable d'un côté, et l'action publique, laïque, de l'autre. Le paysage commence à se dessiner.
Et ce paysage continue de s'enrichir au début du XXe siècle. En 1912, une nouvelle école privée ouvre à Montagnac, grâce à un philanthrope, Maurice Fenaille. Mais son histoire est tout de suite percutée par la grande histoire, la Première Guerre mondiale.
Oui, et sa nouvelle mission est, elle est incroyablement poignante. Elle devient un centre de rééducation pour les mutilés de la guerre. On y accueille des soldats gravement blessés pour leur réapprendre les gestes du travail agricole. La source cite l'objectif de l'époque, et la phrase est d'une force rare, « Il s'agit de rendre à la terre ceux qui la cultivent et qui, en la défendant, ont versé généreusement leur sang. »
C'est une phrase qui dépasse complètement le cadre de la formation. On est dans le symbole, dans la réparation des corps, et de la nation par le retour à la terre. Ça en dit très long sur la place presque sacrée de l'agriculture à l'époque.
Absolument. C'est un moment où l'enseignement agricole prend une dimension patriotique, thérapeutique même. Après la guerre, en 1922, cette école est transférée à La Roque, près de Rodez. Et l'école de La Roque, elle va devenir une sorte de personnage central de notre histoire. Un vrai fil rouge, avec une histoire très mouvementée. Dès son installation, le sort s'acharne. Le domaine est ravagé par deux incendies, en 1922 puis en 1927. Et très vite, les critiques fusent.
C'est incroyable. On a l'impression que le problème n'a pas bougé depuis l'échec de la ferme-école de Calcomier 70 ans plus tôt. Cette critique d'un enseignement trop théorique, trop loin du terrain, c'est vraiment le grand conflit de cette histoire.
C'est le conflit permanent, c'est ça. Les agriculteurs valorisent l'expérience, le geste, le savoir empirique. Et du coup, face à ces difficultés, l'école de La Roque est au bord de la faillite. En 1929, une solution est trouvée. Sa gestion est reprise en main par l'évêché de Rodez. L'école, qui était une initiative laïque, devient donc une institution confessionnelle.
Et pendant que La Roque traverse toutes ses péripéties, d'autres formats de formation, beaucoup plus pragmatiques, voient le jour. L'article en cite deux, qui sont très révélateurs de l'ingéniosité de l'époque.
Oui, le premier, ce sont les écoles d'hiver. Le concept est d'une simplicité redoutable. L'hiver, l'activité agricole est ralentie, donc c'est le moment idéal pour se former. On ne perturbe pas le cycle de production. Le second exemple, c'est la création en 1930 d'une école d'artisanat rural.
Ça, c'est un tournant majeur. On n'enseigne plus seulement la culture ou l'élevage, on enseigne la mécanique, la forge, la menuiserie. Pourquoi ce changement ?
Parce que l'agriculture elle-même est en train de changer. C'est le début de la mécanisation, le tracteur, la faucheuse commencent à arriver. Du coup, savoir souder une pièce, réparer un moteur, ça devient une compétence vitale. On passe de l'agriculteur paysan à l'agriculteur mécanicien, en quelque sorte.
On arrive donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, avec un système qui est déjà très diversifié. Et j'imagine qu'après la guerre, tout s'accélère encore.
C'est la quatrième et dernière phase, oui. Une véritable explosion de structures après 1945. La modernisation du pays devient la priorité. On voit apparaître des cours par correspondance, des centres spécialisés dans l'élevage ovin pour le roquefort ou l'arboriculture. Et surtout une nouveauté majeure, un enseignement agricole pour les jeunes filles.
L'enseignement ménager agricole. Le nom sonne très, très daté aujourd'hui. Est-ce que la source nous dit si c'était perçu comme une émancipation en donnant des compétences de gestion aux femmes ou si c'était surtout pour les cantonner à un rôle d'épouse au foyer ?
C'est une excellente question. La réalité, elle est sans doute un peu entre les deux. D'un côté, c'est la première fois qu'un enseignement structuré leur est proposé. C'est une forme de reconnaissance de leur rôle économique. On leur apprend la compta, la gestion, la transformation des produits. D'un autre côté, le cadre reste très traditionnel. On forme la future femme d'agriculteur. Il faudra attendre encore des décennies pour voir des formations menant à des statuts d'exploitante à part entière.
Et de nouveaux modèles pédagogiques apparaissent aussi. L'article mentionne l'arrivée des maisons familiales rurales dans les années 70.
Elle popularise un modèle basé sur l'alternance. Une semaine à l'école, deux semaines sur l'exploitation. C'est la réponse la plus aboutie à cette fameuse critique de l'enseignement trop théorique. L'idée, c'est que l'expérience pratique devient la matière première de la formation. C'est un modèle qui va avoir un succès considérable.
Et pendant ce temps, que devient notre école fil rouge, La Roque ?
La Roque continue son parcours sinueux. Elle s'agrandit dans les années 50 et 60, elle prépare jusqu'au bac agricole. Mais dans les années 70, elle est rattraquée par des difficultés financières. L'Église n'a plus les moyens. Et après d'intenses négociations, des manifestations, une solution radicale est adoptée en 1976.
Elle est nationalisée. L'école privée confessionnelle devient un lycée d'État. La boucle est bouclée.
C'est une excellente synthèse. C'est le symbole parfait de l'évolution générale. On passe d'une mosaïque de petites initiatives locales, privées, religieuses, à un système public beaucoup plus structuré. À la fin du XXe siècle, le paysage est dominé par les lycées agricoles d'État, les centres de formation pour apprentis et pour adultes. La formation agricole est devenue un parcours complet du cap au diplôme d'ingénieur.
Bon, si on résume les points clés de cette fresque, en 150 ans, on est passé d'un savoir transmis au coin du feu à un écosystème éducatif complexe. C'est une histoire qui est marquée par une tension constante entre l'État, l'Église et le secteur privé. Et tout ça en s'adaptant aux guerres, aux révolutions technologiques, aux changements sociaux.
Tout à fait. Et ce qui rend cette histoire locale si intéressante, c'est sa portée universelle. Ce récit avéronné, c'est une étude de cas sur la manière dont tout un secteur se professionnalise grâce à l'éducation. C'est le passage de l'empirisme à la science. Et à travers ça, on lit en filigrane des transformations beaucoup plus larges. Le rôle de l'État, l'influence de l'Église et l'émergence de la formation pour les femmes.
Pour conclure, quelle est la pensée finale que nous laisse cette source?
L'auteur, Gilbert Régour, termine son article avec une réflexion très juste. Il souligne que l'enseignement agricole, surtout après les Trente Glorieuses, a massivement accompagné un modèle productiviste. Et ça nous amène à une question essentielle pour aujourd'hui. Face aux défis actuels, le climat, la biodiversité, les nouvelles attentes des consommateurs, comment cet enseignement doit-il se réinventer? Quelle est sa mission pour préparer non plus l'agriculture d'hier, mais les agricultures de demain? La question, bien sûr, reste ouverte.